Radio Kapi. Oh, Kapi. Les journaux, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, le sport est un excellent moyen qui peut être utilisé dans les zones de conflit pour la culture de la paix. C'est l'avis de l'organisation Peace and Sport qui, en marge des 9e Jeux de la Francophonie, appelle les jeunes à considérer que le sport est une source d'inspiration pour la construction des mondes pacifiques. Journaliste en danger exprime ses très vives inquiétudes face à la montée des actes d'intolérance et de violences physiques contre des journalistes par des militants des partis politiques. À travers son communiqué publié hier lundi à Kinshasa, JED demande aux acteurs et leaders politiques d'appeler leurs militants au calme. L'invité de ce journal est l'artiste visuel camerounaise Dongmo Marie-Francine, qui pour la première fois expose son œuvre d'art au niveau international au 9e Jeu de la Francophonie. Vous allez le découvrir, son œuvre en forme d'une moto issue des machettes tranchantes et des fleurs rouges veut amener la communauté à réfléchir sur les paradoxes qui tournent autour des mototaxis. À présent, les détails. En marge des 9e Jeux de la Francophonie, l'organisation Peace and Sport appelle les jeunes à considérer que le sport est une source d'inspiration pour la construction d'un monde pacifique à travers les valeurs qu'il véhicule. Pour Benjamin Boukpeti, médaillé aux Jeux Olympiques de Pékin d'été en 2018 en canoë kayak, le sport est un excellent moyen qui peut même être utilisé dans les zones de conflit pour la culture de la paix. Il l'a déclaré hier lundi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. On écoute Benjamin Boukpeti au micro de Jean Grandou.
En fait, sans paix, l'organisation d'événements sportifs, la pratique sportive devient quasi impossible. Ça veut dire que dans des zones de conflit, dans des zones de guerre, la pratique sportive devient difficile. Et dans un contexte de guerre, la réalisation d'événements sportifs devient impossible. Et comment le sport peut influencer la paix ? Eh bien, en fait, c'est surtout dans le sens où le sport, c'est des règles universelles, communes, admises et partagées par l'ensemble des êtres humains. C'est des athlètes qui sont des ambassadeurs ou en tout cas des figures d'inspiration. Et c'est aussi, notamment, ce que nous on développe avec Peace and Sport, c'est une voie pour permettre à des populations d'apprendre finalement comment on se comporte pour vivre dans une communauté qui va être équitable, qui va être pacifique. Dans un contexte plus spécifique comme le vôtre, on va même plus parler du sport, mais on va parler comment des figures d'inspiration sportive pourraient aider et influencer, comment mettre en place des événements sportifs dans des zones proches des conflits qui vont impliquer justement les différentes parties prenantes dans les conflits pour améliorer ça. Ça, c'est des genres de choses assez concrètes qui peuvent aider à commencer à faire des pas en avant.
Notez que la finale du concours pour la discipline de la littérature nouvelle dans le cadre des 9e Jeux de la Francophonie aura lieu ce mardi soir dans la salle de spectacle du Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa. 20 candidats représentant 20 pays dont la RDC vont se disputer 3 médailles, à savoir les médailles d'or, d'argent et de bronze. Il faut savoir que des lectures spectacles sont programmées dans la matinée à la bibliothèque Wallonie Bruxelles de Kinshasa. Journaliste en danger exprime ses très vives inquiétudes face à la montée des actes d'intolérance et de violences physiques contre des journalistes par des militants des partis politiques. Dans un communiqué publié hier lundi, JED affirme qu'au cours des derniers jours, au moins une dizaine de professionnels des médias ont été victimes de cette intolérance alors qu'ils couvraient des activités politiques. JED demande aux acteurs et leaders politiques d'appeler leurs militants au calme. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
À Kananga, JED parle d'une dizaine de journalistes pris au piège dans le convoi de Délice Sanga, candidat à la présidentielle de 2023, qui a été pris pour cible avec des jets de pierre qui ont légèrement blessé certains d'entre eux. Il s'agit, selon un communiqué de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Kananga, de Jean-Pierre Kayembe, Élisée Odia, Trésor Kalafai, Denon Kefula, Didier Kebongo et 6 autres caméramen. Au Kasaï, JED cite 3 journalistes arrêtés lors d'une marche de protestation. Gilbert Ngandou, Martin Yamabo, journaliste à la radio communautaire de Kamonya, et Papingala Mouloumé de la radio Kamonya couvraient une marche de protestation non autorisée le mercredi 26 juillet 2023 lorsqu'ils ont été interpellés par les éléments de la police nationale congolaise. Dans un communiqué rendu public dimanche 30 juillet 2023 à Kinshasa, le média en ligne actualité.cd a exprimé sa plus vive protestation suite à l'agression de son journaliste Will Lenvo, survenu détenue à l'aéroport d'Addis Abeba le dimanche 30 juillet 2023. Le journaliste a été pris à partie par des individus se présentant comme faisant partie de la garde républicaine et venant de Moscou selon le témoignage de la victime. J'aide encourage les journalistes victimes de cette intolérance politique de saisir les instances judiciaires afin d'obtenir réparation au préjudice subi.
Affaire Chérubin Okende, les avocats en charge de la défense du commissaire Nico Kabunda Ntambi et Papingaka, respectivement garde du corps et chauffeur du député national Chérubin Okende, disent n'avoir toujours pas accès à leurs clients. Maître Jules Bongombe, Bertin Toumba et Timothée Moukeng fustigent la violation des droits de la défense. Ils l'ont dit dans une autre correspondance adressée au procureur général près la Cour de cassation vendredi dernier. On écoute les explications de Maître Jules Bongombe.
Comme vous le saviez, on était devant le PGR près de la Cour de cassation. Depuis le 20 juillet 2023, on avait déposé une requête pour dénoncer la violation flagrante des droits de la défense. Maintenant, il fait plus d'un jour. Nous sommes encore retournés auprès de lui pour lui rappeler par une autre correspondance que nous ne sommes toujours pas en contact ou en communication avec nos clients. Que la Cour nous éclaire un peu. Si ce qui se passe est vraiment réel, c'est trop. Personne ne peut violer ce droit-là qui est garanti par notre Constitution dans son article 19. Il y a 4 qui stipule que lorsqu'on arrête une personne, même devant les services de sécurité, il doit être assisté. Personne ne peut violer les droits de la défense. Ça nous inquiète un peu. On ne sait pas si nos clients sont en bonne santé, s'ils sont bien nourris ou logés. Et en dehors de ça, tous ces PV-là qu'on est en train de les auditionner, aura quelle force de loi? Et quand on va poser ça devant leur juge naturel, aura quelle crédibilité?
Et par ailleurs, la famille et les avocats du député national Chérubin Okende ont été invités hier lundi à une séance de travail avec les procureurs sur leur préalable en vue de procéder à l'autopsie. Pour rappel, le député national Chérubin Okende a été retrouvé mort dans son véhicule le jeudi 13 juillet dernier, ici à Kinshasa. Pendant ce temps, les défenseurs des droits de l'homme de la province du Sud Kivu réclament plus de protection dans l'exercice de leur métier. Ils exigent en même temps la réouverture du procès de Pascal Kabungulu, l'un de leurs collègues assassiné à Bukavu le 31 juillet 2005. Aujourd'hui, 18 ans après, les défenseurs des droits de l'homme du Sud Kivu veulent toujours que la vérité soit faite sur ce crime crapuleux. Maître Pascal Mupenda s'exprime au micro d'Emmanuel Elamejo Akabedi.
C'est toujours sans connaître qu'est-ce qui s'est passé exactement, pourquoi Pascal Kabungulu a été tué. Et nous demandons la réouverture du procès Pascal Kabungulu pour que, n'est-ce pas, sa mémoire puisse reposer un peu parce que son sang continue à réclamer justice. Et surtout aussi, nous demandons qu'il y ait une place qui soit baptisée et ou rebaptisée place Pascal Kabungulu Kibembi dans la ville de Bukavu, dans le juste milieu de l'avenue Kibombo, dans laquelle Pascal Kabungulu était tué froidement chez lui. Et enfin, nous demandons exactement que tous les DDH, la sécurité leur soit garantie dans l'exercice de leur travail, parce qu'on ne peut pas comprendre que les activistes soient la cible des tueries dans l'exercice de leur travail. Et nous pensons que si justice serait faite pour Pascal Kabungulu, parce qu'il y a déjà 18 ans qu'il y a silence des morts, cela luttera contre l'impunité et même tous les autres défenseurs des droits humains pourront, n'est-ce pas, aussi se sentir à l'aise dans leur travail. Cette impunité à l'égard des violations contre les DDH doit cesser.
Et tout à fait autre chose à présent, partenariat économique pour une croissance partagée sur le thème du forum économique RDC Angola ouvert hier lundi ici à Kinshasa. Objectif, renforcer des liens commerciaux et économiques en encourageant des partenaires et des investissements mutuellement bénéfiques. Pour Jean-Michel Samalukonde, premier ministre de la RDC qui a ouvert ses assises des 2 jours, ce rapprochement pourrait constituer le point de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique centrale. Écoutez Jean-Michel Samalukonde dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
La République démocratique du Congo et la République d'Angola ont toujours entretenu des relations bilatérale importante. Nos deux pays possèdent des ressources naturelles abondantes, notamment des minéraux tels que le diamant, le cuivre, le pétrole, de la faune et de la flore riches en biodiversité, des terres arables et des ressources halieutiques qui constituent une base économique solide pour un développement durable. Il est en effet impensable que nos citoyens soient incapables d'aller et venir dans les deux pays en toute facilité et dans les conditions humainement acceptable. Ce rapprochement République démocratique du Congo-Angola, deux géants au cœur de l'Afrique, pourrait constituer le point de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique centrale, maillon essentiel pour la création d'une zone de libre-échange en Afrique subsaharienne. J'estime que ce forum va renforcer les liens commerciaux et économiques entre nos deux pays, encourageant les partenariats et les investissements mutuellement bénéfiques.
Et puis le franc congolais s'est apprécié face au dollar depuis le week-end dernier sur toute l'étendue du territoire national. Dans la capitale, un dollar se négocie maintenant entre 2250 et 2300 francs congolais dans certaines maisons de commerce et autres bureaux d'échange. Cette situation réjouit plusieurs Kinois. Merveille Hassani, reportage.
C'est depuis le week-end dernier que la baisse du taux d'échange a été observée sur toute l'étendue du territoire national. En dollars qui s'est changé à 2600 francs congolais, c'est négocié maintenant entre 2250 et 2300 francs congolais. Dédoné Musangana, la cinquantaine révolue, gestionnaire du bureau d'échange se trouvant au rond-point Forescom à la Gombe, confirme la baisse du taux du dollar et loue le système que la BCC a mis en place pour pallier cette situation.
Il y a vraiment baisse. Et puis la Banque centrale a instauré un système que nous louons et que nous saluons, celui de ne pas livrer toutes les institutions au guichet de la Banque centrale pour percevoir de francs congolais.
Par ailleurs, l'analyste Alki Tengue salue cette baisse, mais signale que les mêmes causes produiront les mêmes effets si l'on ne recourt pas à la production locale. Il explique.
Si nous désirons maintenir cette situation sur le moyen et le long terme, il faut absolument se tourner vers la production locale. C'est ce qui va déterminer le caractère introverti de notre économie et non extraverti, et c'est ce qui peut permettre que notre monnaie reprenne de la valeur.
Pour leur part, plusieurs Congolais que nous avons contacté souhaite vivement que lorsque le taux du dollar américain baisse, que le prix des denrées alimentaires et autres biens de consommation puisse effectivement baisser sur le marché.
Les opérateurs économiques du Nord Kivu déplorent la persistance des insécurités sur les tronçons Mambasa, Komanda, Luna en Ituri et Kanyabayonga Rutshuru dans le Nord Kivu. Conséquence, plus de 100 véhicules de transport ont été incendiés depuis janvier 2023 par des groupes armés et le trafic suspendu dans la zone occupée par l'M23. Dans un échange la semaine dernière à Bounia avec le gouverneur de l'Ituri, la Fédération des entreprises du Congo du groupement Beni Lubero a demandé au gouvernement des deux provinces de sécuriser cette région et de réhabiliter d'urgence ces routes. Des détails avec Isaac Remou.
Dans un mémorandum adressé au gouverneur de l'Ituri et du Nord Kivu, les opérateurs économiques du secteur des transports ont évoqué plusieurs problèmes auxquels ils sont confrontés. Il s'agit notamment de la persistance de l'insécurité sur la route nationale numéro 4 et des dessertes agricoles, les délabrements très avancés des axes routiers qui exposent les véhicules aux attaques des groupes armés. Le dernier cas s'est produit le 21 mai dernier lorsqu'un convoi de véhicules a été bloqué dans les villages de Sokotano. Les usagers ont été surpris par les ADF qui ont incendié 7 camions contenant des marchandises. Du côté du Nord Kivu, ils fustigent les blocages par les M23 de la circulation des biens des personnes sur l'axe routier Kanyabayonga Rutshuru. Face à tous ces défis, ces opérateurs économiques plaident pour la reprise de l'escorte militaire pour garantir la sécurité des usagers. Ils demandent aussi la réouverture des trafics entre Kanyabayonga Rutshuru pour faciliter les échanges commerciaux. Ils ont invité le gouvernement à réhabiliter les tronçons d'Alia Katabei, Otmaber, Idou et Komanda Lolwa. Le gouverneur de l'Ituri a déclaré que les démarches sont en cours pour identifier l'entreprise qui va exécuter ces projets d'entretien de ces tronçons. Concernant la situation sécuritaire, le gouvernement a dit déployer des efforts pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le monde célèbre ce 1er août, la journée internationale des parents. Hier, par contre, le 31 juillet, c'était la journée internationale de la femme africaine. Une occasion pour informer, sensibiliser et faire un plaidoyer pour le renforcement des mesures prises par le gouvernement en faveur de l'autonomisation des femmes. À cette occasion, Radio Okapi s'est penché sur la situation des femmes à Butembo et Lubero au Nord Kivu, des régions où l'insécurité reste un frein pour l'autonomisation de ces femmes malgré leur résilience. Reportage de Grévis Salomou.
Commerce des souliers, des friperies et des vivres ou encore les activités champêtres, telles sont les principales activités menées par les femmes de Butembo et Lubero pour leur autonomisation. Cependant, l'activisme des groupes armés à la base de leur sécurité dans la région de Butembo et Lubero reste un frein pour leur épanouissement. Denise Sambili est cultivatrice des vivres. Témoignage.
Avec les femmes, des difficultés liées par exemple à l'accès à la terre, on est stressé par la situation de la sécurité. Vous avez j'avais toujours peur, est-ce que quand je vais finir, est-ce que je ne trouverai pas à route les coupeurs qui peuvent me stresser.
Une situation qui empêche l'accroissement des activités et l'autonomie financière des femmes de Boutembo et Lubero, c'est Lozita Mahamba qui intervient également dans le même secteur. Elle plaide pour le rétablissement de la paix dans la région.
La femme se trouve dans un niveau économique très bas. Malgré tout ça, nous essayons d'adhérer dans certaines coopératives. À partir de cet argent, tu peux faire un peu de petits commerces. Les autorités doivent nous aider d'abord, de sécuriser d'abord le milieu dans une situation où elle peut aller au champ librement, travailler sa crainte.
Boutembo, Grévis Salomou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les jantes burkinabées, maliennes et guinéennes mettent en garde contre toute intervention militaire au Niger. Ces trois États dirigés par des militaires ont averti qu'ils s'opposaient fermement à une éventuelle intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé par un putsch. Le Burkina Faso et le Mali affirment dans un communiqué conjoint qu'elles seraient assimilées à une déclaration de guerre à leurs deux pays.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'artiste visuelle camerounaise Dongmo Marie-Francine, qui pour la première fois expose son œuvre d'art au niveau international au 9e jeu de la francophonie au Musée national de la RDC. Vous allez le découvrir tout de suite là, cette œuvre en forme d'une moto issue de machettes tranchantes et de fleurs rouges veut amener la communauté à réfléchir sur les paradoxes qui tournent autour des mototaxis. L'artiste visuelle camerounaise s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Marie-Francine Domo, bonjour.
Bonjour.
Au Musée National, il y a votre sculpture qui est exposée. Il s'agit d'une moto fabriquée avec des machettes.
Cette œuvre est en réalité une représentation symbolique de la réalité des mototaxis en Afrique subsaharienne en général. C'est une œuvre qui met en scène une moto faite de machettes qui évoque la violence, la bravoure et le courage des conducteurs qui affrontent quotidiennement les dangers de la circulation et de la souffrance. La moto est ornée de fleurs,
oui,
qui contrastent avec le métal qui est tranchant et froid. Les fleurs symbolisent l'espoir, la vie et la beauté qui émanent de ce mode de transport qui est populaire et accessible à tout le monde. Les fleurs rappellent aussi le sang des victimes des accidents de circulation et des répressions. Parce que la moto, il faut rappeler que la moto est utilisée dans des zones de... pas des terroristes. Ça facilite leurs actions, en fait.
Ouais.
Chez nous, par exemple, il y a le Boko Haram, il y a la crise anglophone. Les terroristes aiment bien utiliser la moto parce que ça facilite leur déplacement. Et j'ai créé cette œuvre, en fait, pour amener les gens à réfléchir sur les enjeux et les paradoxes qui tournent autour des mototaxis, qui sont des facteurs liés en même temps à la liberté et aux crises et aux risques,
ouais,
en même temps de la souffrance et le progrès. En fait, c'est ambivalent en même temps.
Ouais.
Et je voulais aussi rappeler que c'est quand même un élément très important de notre patrimoine culturel contemporain qu'il faut bien immortaliser pour les générations à venir.
Et donc là, à travers votre œuvre, on comprend les différentes facettes d'une moto.
Oui, bon, le titre de l'œuvre, c'est le cinquième pouvoir. Parce que dans la hiérarchisation des pouvoirs, on a d'abord les trois pouvoirs étatiques,
oui,
le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les médias, c'est le quatrième pouvoir. Et le cinquième pouvoir, c'est l'opinion publique, Internet et autres. Et moi, j'inscris mon œuvre dans l'opinion publique parce que chez nous, au Cameroun, c'est un métier qui a le pouvoir. Les mototaximens ont une forme de solidarité qui peut les amener à prendre des décisions allant dans le sens de déstabiliser, par exemple, un pays. Ils peuvent le faire. Parce que quand ils se mettent en synergie, ils bafouent souvent les lois des policiers. Il y a parfois les points de les axes de contrôle. Ils arrivent, ils chassent les policiers et puis il n'y a plus de contrôle. Voilà. Et ils sont aussi souvent utilisés par les hommes politiques pour battre la campagne. Donc,
ouais.
C'est un pouvoir.
On peut dire que vous observez beaucoup ce qui se passe autour de vous pour arriver à faire ça.
Oui, je suis entourée des mototaximens. Je vis avec eux. Ouais. Je partage leur quotidien, leurs craintes, tout ce qu'ils vivent au quotidien, en fait, leurs épreuves. Ils sont parfois obligés de prendre des stupéfiants pour braver des vents forts et pour avoir le courage d'affronter la circulation. Et quand je parle de violence, quand j'utilise les machettes, je parle de violence qu'incarne ce métier. Violence aussi, d'abord physique, qui rappelle les accidents. Violence psychologique, parce que la plupart des jeunes qui font de la moto n'ont pas choisi ce métier de prime abord. Donc c'est un métier qui s'est imposé à eux à cause des conditions de vie qui ne sont pas très favorables. Donc ils ont choisi ça comme plan B. Du coup, il y a d'abord ce problème, cette violence psychologique-là. Voilà. Il y a aussi la violence verbale, parce que dans la circulation, ce sont des gens qui ne s'entendent pas avec les taximans. Il y a toujours des mots qui se lancent. Et il y a aussi la violence sonore. Trop de bruit. Pim, 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 pim. Bon, il y a de cela 20 ans, par exemple. C'était pas pareil. C'est beaucoup de violence sonore.
Et là, vous êtes parti de la situation des taximotos de chez vous au Cameroun. En arrivant à Kinshasa, il y a aussi les taxis partout en RDC, les taxis motos. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait de les voir ici aussi?
Je le savais que c'est la même chose ici. En fait, on a les mêmes conditions de vie, que ce soit au Cameroun, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique noire, on a les mêmes problèmes, on rencontre les mêmes problèmes. Les guerres, les terrorismes, tout ça.
C'est la première fois que cette œuvre est exposée?
Cette œuvre a été exposée dans mon pays, dans une galerie dans mon pays, mais c'est la première fois qu'elle est exposée à l'international. J'ai eu la chance que cette œuvre soit sélectionnée pour représenter le Cameroun au 9e Jeu de la Francophonie à Kinshasa. J'espère qu'elle sera primée par la grâce de Dieu.
Marie-Francine, merci.
Merci.
Et notre invitée, l'artiste visuelle camerounaise Marie-Francine Dogmo, s'entretenait avec Rose Dali Zawadi. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Capi.